France Inter, le 18-20.
Et si la crise du coronavirus, au-delà des drames engendrés, était l'occasion de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive? C'est ce que nous allons faire jusqu'à 19h avec la philosophe Claire Marin, elle qui travaille depuis longtemps sur la maladie, le deuil, la souffrance, les ruptures, nous dira comment appréhender cette séquence, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan collectif. Nous serons aussi en ligne avec Karine Lefeuvre, la présidente par intérim du Comité consultatif national d'éthique, car le CCNE estime qu'il y a déjà des leçons à tirer de cet épisode. Également au sommaire de cette émission, préparée par Virginie Rouzic et Pierre Dessertaine, paroles de soignants de Wafia Kenich et notre rubrique « Heureux déconfiné » avec Antoine Lee. Il s'est intéressé aux bouleversements que le coronavirus entraîne pour les esthéticiennes. À 19h20, au téléphone sonne ce que cette crise a changé à notre rapport au numérique. Télétravail, cours à distance, apéro Skype, mais aussi fractures numériques, on en parle au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes. Merci à Arnaud Caillé et Ludovic Asselot qui sont de l'autre côté de la vitre en régie et à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Claire Marin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes philosophe, vous êtes enseignante en classe préparatoire, membre associé de l'École normale supérieure où vous dirigez le séminaire international d'études sur le soin. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les souffrances de la vie, violence de la maladie, violence de la vie, la maladie catastrophe intime. Il y a aussi Hors de moi, qui est un roman, et puis Rupture, au pluriel, qui a connu un grand succès l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Autant de titres et de réflexions qui font écho à la crise que nous traversons depuis plus de 2 mois maintenant. Ce soir, vous allez nous accompagner dans ces réflexions. Pour commencer, j'ai envie de vous demander tout simplement comment allez-vous, parce que c'est vrai que cette phrase banale n'est plus une simple formule de politesse, comme si elle avait pris une certaine épaisseur, cette phrase.
Tout à fait, c'est vrai qu'on a été plus attentifs aux autres et plus soucieux de l'état dans lequel ils se trouvaient et que les conversations, au moins au début du confinement, ont souvent commencé par un souci de l'autre qui était assez inhabituel. Et puis à l'inverse, on avait comme formule de départ « prends soin de toi » qui a connu une nouvelle... qui a pris un nouveau sens et effectivement une nouvelle densité, comme vous le disiez.
Cette crise, en fait, elle nous a appris avant toute chose que nous n'étions pas invulnérables comme on le pensait, Claire Marin.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a découvert que nos fragilités étaient plus grandes que celles qu'on avait imaginées. On a aussi découvert les fragilités de ceux qui étaient autour de nous et qui vivent leur maladie de manière discrète ou invisible. Et ce sentiment d'invulnérabilité que vous évoquez, je crois qu'il était flagrant quand on regardait nos voisins italiens avec cette espèce de sentiment qu'on était à l'abri de cette situation. Et je crois qu'il y avait là-dedans l'expression d'une grande confiance et sans doute d'une représentation un peu fausse des pouvoirs de la médecine, sa capacité à nous préserver de tout. On avait aussi l'impression que les épidémies, c'était des expériences du passé ou des expériences dans notre orgueil occidental, des expériences qui étaient réservées à des pays moins avancés, plus pauvres, etc. Et je crois que cette crise est aussi une leçon d'humilité, finalement, puisqu'on découvre toutes les limites d'une médecine qu'on peut-être on avait imaginée toute puissante. On découvre qu'on ne peut pas tout guérir, on découvre que ça prend du temps pour découvrir un vaccin, on découvre que les soignants peuvent tomber malades, ils peuvent même mourir d'avoir soigné les autres. Donc il y a toute une représentation un peu idéalisée qu'on pouvait faire d'une médecine ultra performante. Enfin, on parlait il y a encore quelques mois quand même de transhumanisme, de corps bioniques ou de cyborgs. Et là, on est ramené à la réalité du soin qui est parfois la nécessité de faire avec ce qu'on a. Et on a vu à quel point les soignants avaient été inventifs et avaient déployé des moyens incroyables pour soigner à tout prix. Mais je crois qu'il y a ici une épreuve de vérité un peu dans notre conception de ce que c'est à la fois le soin et puis de ce que peut et de ce que ne peut pas la médecine.
On a aussi découvert, Claire Marin, tout simplement, qu'on était interdépendants les uns des autres, qu'on était tout simplement des membres de la chaîne du vivant. Hein, ça paraît tout bête, mais on l'avait un petit peu oublié.
Ah, tout à fait. Et non seulement, effectivement, une chaîne de vivant, mais aussi, on se découvre pris dans tout un tas, effectivement, de chaînes qui était faite pour rester invisible d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce virus invisible rend visible les chaînes de dépendance à tous les degrés ou dans toutes les strates de notre vie, c'est-à-dire les chaînes affectives, les chaînes qui tiennent plus à nos besoins pour, par exemple, pouvoir nous nourrir, mais aussi à d'autres besoins, c'est-à-dire éduquer les enfants, soigner les plus vulnérables, s'occuper des plus âgés ou des plus démunis. Donc, tout d'un coup, toute cette articulation remet aussi en question une certaine vision que l'occidental aime bien avoir de lui-même, c'est-à-dire indépendant, autonome. Chaque être est autonome grâce à tous ceux qui l'aident à être autonome. Et là, on a vu, quand les espaces familiaux, professionnels se sont retrouvés dans un même lieu, on a vu à quel point, oui, pour être efficace au travail, il fallait que quelqu'un instruise nos enfants pendant ce temps-là, ou il fallait que quelqu'un d'autre s'occupe du domestique, de l'espace plus familial, etc. Donc, je crois que certains ont réalisé toute la sphère invisible de services qui existent pour qu'on puisse se dire ou se croire autonome, performant, indépendant dans notre sphère professionnelle, par exemple.
Ça veut dire que cette pandémie, en fait, qui a provoqué des dégâts considérables, des dégâts sanitaires, sociaux, économiques, on va en reparler, en fait, c'est quand même aussi, d'une certaine façon, une aubaine dans la mesure où ça nous oblige à réfléchir. Et ça, c'est pas la philosophe que vous êtes qui va nous dire le contraire.
Oui, alors j'aurais juste une petite réserve, c'est que je pense que cette réflexion, même si on a essayé de la solliciter très tôt dans l'expérience du confinement, cette réflexion, elle était presque impossible au début. Enfin, au début, il y avait tellement d'affect, de sidération, d'angoisse que le moment de la réflexion, je pense, est venu petit à petit, mais effectivement, je pense que pour beaucoup d'individus, ça a été l'occasion d'une prise de conscience de toute l'organisation de nos vies, et en particulier l'organisation souterraine qui fait le confort d'un certain nombre d'entre nous, et une prise de conscience, ou en tout cas un moment de réflexion sur aussi la nécessité de maintenir certains éléments de notre mode de vie. Ça a été l'occasion peut-être de s'interroger un peu sur nos déplacements, sur le rythme de travail ou les modalités de travail, sur le sens de nos achats et pour certains, de manière un peu plus peut-être douloureuse, le sens même de notre place dans la société. On a pu voir apparaître quand même une distinction un peu sommaire, un peu caricaturale, mais qui a été utile et qui ne l'a pas été. Sans parler de révélation, je crois que pour certains, ça a peut-être nourri des questionnements sur le sens de leur fonction habituelle, de leur place ou de leur rôle dans la société.
Alors, vous croyez pas si bien dire, Claire Marin, parce que ça a interrogé tout le monde, à commencer par, évidemment, les soignants, qui ont été, vous l'avez dit, en première ligne, à tous les échelons. Ils ont été secoués par ce qui s'est passé, des plus âgés aux plus jeunes. C'est notre rubrique Parole de soignants. Ce soir, on va écouter Pierre. Il a 29 ans, il est interne. Il s'est porté volontaire pour travailler dans une unité Covid au CHU de Nice. Il a perdu 7 kilos en 2 mois. Il ne voit plus du tout la médecine de la même façon. Il dit pourquoi. À Wafia Kenich.
J'ai vu un monsieur qui avait 83 ans, donc il avait le même âge que mon grand-père, sportif, autonome, vivant à domicile, et il a attrapé le Covid. Heureusement, on était au début de l'épidémie. où on avait encore des capacités de réanimation qui étaient loin d'être saturées. Et là, le réanimateur est descendu et il y a une vraie négociation entre le patient et le réanimateur pour savoir s'il devait se faire hospitaliser en réanimation. Et ce qui se passait devant moi, c'est que c'était une discussion de vie ou de mort. En fait, il parlait de sa propre mort, ce monsieur. S'il répondait « non, je ne veux pas », ben, par sa propre parole, il signait son arrêt de mort. Et en fait, sa réponse à lui, c'est « oui, je veux vivre, oui, je veux vivre, oui, je veux vivre ». Et je suis obligé de me projeter. Si ça avait été mon grand-père, j'aurais été catastrophé. Et je me suis dit « là, c'est vraiment le manque de moyens de l'huile de réanimation qui nous font rationaliser les choses pour un monsieur qui, habituellement, il n'y aurait même pas eu le moindre débat ». C'est parti une grande tristesse. Et puis quand j'ai su qu'il pouvait aller en réanimation, ça m'a... je me suis dit « pfff », parce que sinon, ça aurait été horrible. Il s'en est sorti, ouais. Je l'ai pas revu. Nous, on a des milieux où on doit être dur, on doit pas parler, c'est comme ça, c'est le travail. C'est normal de travailler 80 heures par semaine. Un médecin, déjà c'est un homme, il pleurait pas, il devait être suffisant, condescendant, le sachant. Et ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bascule dans l'opinion des médecins, parce qu'il y a toute une nouvelle génération qui est cassée avant, après, où oui, il faut faire attention aux gens, oui, il faut pas travailler 90 heures parce qu'on tue des gens, oui, il faut prendre un repos de garde après 24 heures de travail. La seule chose que l'épidémie a pouvoir changer dans le statut des internes, c'est que ça a prouvé leur importance vitale. On était vus comme des étudiants, comme des gens qui apprenaient la médecine, bon, ça n'a jamais été le cas. Hein. Que là, maintenant, notre rôle est primordial, on est des médecins, on a les connaissances et puis on assume toute la responsabilité. C'est à ce niveau-là que les choses se jouent.
Voilà, parole de soignant, c'est à retrouver également sur franceinter.fr. Claire Marin, cette pandémie, elle nous interpelle aussi sur la place du malade dans la société, peut-être tout simplement.
Oui, parce que je crois que jusqu'à présent, nos maladies étaient un peu comme notre société, c'est-à-dire dans une société individualiste, on a des maladies qu'on vit de manière individuelle. Alors avec un peu de chance, on est secondé par des proches et on a des médecins avec qui on peut avoir des relations humaines. Mais là, tout d'un coup, c'était au moins de manière potentielle une maladie qui pouvait tous nous toucher plus ou moins ensemble, sans distinction, en tout cas, a priori, on peut avoir ce sentiment-là, sans distinction sociale. Après, on a vu que c'était plus compliqué, puisque c'était aussi une maladie qui, d'une certaine manière, faisait apparaître les fractures sociales, puisqu'elle touchait ceux qui, souvent, étaient déjà dans un état affaibli d'un point de vue physiologique du fait de conditions sociales un peu défavorables. Mais c'est vrai que c'était un rapport nouveau à la maladie, puisque au moins dans les premiers moments, tout le monde a eu le sentiment qu'il pouvait potentiellement en être la victime, ce qui est très différent de notre rapport antérieur à la maladie, qui était beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime d'une certaine manière.
Un rapport auquel on ne pense pas forcément quand on n'y est pas confronté soi-même, Claire Marin. Et si je vous pose cette question, c'est parce que c'est un sujet que vous connaissez, vous, à titre personnel, puisque vous avez souffert d'une maladie chronique et que peut-être d'ailleurs vous en souffrez toujours dans une société où on a tendance à cacher les malades, à leur demander d'être fort, de ne pas déranger.
Oui, c'est un principe effectivement qui est d'une certaine manière préférable, parce que le malade, bah, par définition, hein, il est ralenti, il n'est pas performant. Donc, on sait bien, notamment dans le cas des maladies chroniques, puisque vous en parlez, on sait qu'il est souvent beaucoup plus simple de ne pas évoquer sa maladie tant qu'elle n'est pas visible, plutôt que d'en faire mention. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette épidémie, tout d'un coup, elle révélait un peu à l'insu des individus des fragilités qu'on ne leur connaissait pas. C'est-à-dire, tout d'un coup, on découvrait que le boucher était diabétique ou que tel ami souffrait d'un asthme assez sérieux pour qu'il se sente angoissé par l'épidémie, ou que une autre avait des fragilités pulmonaires depuis l'enfance qu'on n'aurait jamais soupçonné. Donc, les vulnérabilités ont été rendues visibles et tout d'un coup, on a pris conscience de l'importance des fragilités des uns et des autres dans une société où, effectivement, on ne les affiche pas. L'autre chose qui me frappe, et qui permet de faire le lien avec ce témoignage de Pierre qui est quand même très très fort hein, sur différents points. Je ne sais pas si on reviendra dessus, mais il a dit des choses très intéressantes. Mais ce qui me frappe, c'est que autant on a assez facilement des images de guerre, autant on a assez peu eu, il me semble, d'images de malades. C'est-à-dire que même dans cette période où on fait ce décompte un peu macabre des morts, des lits libérés, etc., avec cette ambiguïté incroyable de qu'est-ce que ça veut dire un lit libéré, enfin, ça me trouble toujours cette expression, mais cette période où on parle tellement de la maladie, on reste dans cette espèce de tabou d'une invisibilité. On a eu quelques images qui montraient ce que c'était que l'horreur quand même de la réanimation. Hein, c'est une posture difficile à tenir, c'est extrêmement douloureux, et puis les patients peuvent mettre très longtemps à récupérer toutes leurs facultés. Donc même si on en parle beaucoup, ça reste relativement abstrait si on n'est pas soi-même touché par la maladie d'un proche ou si on n'est pas soignant directement confronté à des situations aussi poignantes que celles que Pierre a décrites dans ce choix de... Ce dont il parle, c'est quelque chose qu'on appelle ailleurs le tri des patients, d'une manière peut-être plus violente comme expression, mais il dit bien la violence de la situation telle que lui-même l'a appréhendé.
Effectivement. Alors, de la vie générale, ce confinement a agi comme un révélateur, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Et ça, on va poursuivre notre réflexion à ce sujet. Mais on va accueillir maintenant Karine Lefeuvre, présidente par intérim du Comité consultatif national d'éthique. Bonsoir, Karine Lefeuvre.
Bonsoir, Claire Servageant.
Le comité. Bonsoir. Voilà, c'est un peu compliqué hein, avec les liaisons à distance, on n'est pas les unes face aux autres et effectivement il y a un petit décalage quand on se parle. Karine Lefeuvre, le comité d'éthique a rendu un avis qui mérite qu'on s'y arrête parce que effectivement, vous soulignez vous aussi que ce confinement a servi de révélateur des forces et des faiblesses de notre société et que même la sortie du confinement est un risque d'accroissement des inégalités. En fait, vous insistez sur les effets du confinement sur tous les aspects de la vie, sur ce qu'il n'est en disant que ça a été ni souhaitable ni acceptable, en fait, en tout cas dans la durée.
Oui, oui, oui. Donc, en fait, on vient de rendre un nouvel avis, donc ce 20 mai, sur saisine du Conseil scientifique, qui nous interrogeait sur les dilemmes éthiques, les enjeux éthiques liés à cette période de basculement entre le confinement et le déconfinement. Et effectivement, dans cet avis, il y a 9 points d'attention et 6 recommandations. Et dans ces 9 points d'attention, on a listé à la fois les risques, parce que il y avait des risques dans la période de confinement, mais il y en a des nouveaux, ou en tout cas des risques antérieurs qui prennent un écho particulier. Et puis du coup, face à chacun de ces risques, essayer de trouver une piste de réflexion. Vous évoquiez la question des inégalités, mais pour rejoindre les propos de Claire Marin, il y a, et c'est notre premier point d'attention, le risque lié à l'ambivalence des relations humaines, au risque de défiance qui peut y avoir, du rapport à l'autre, de la distanciation physique, et du coup de l'impérieuse nécessité de recréer ce lien social. Voilà, parmi les nombreux points que l'on a soulignés.
Bien sûr. Alors, ce qu'on comprend à lire cet avis du comité d'éthique, c'est que le confinement a provoqué d'immenses dégâts collatéraux et qu'il aurait peut-être fallu s'interroger sur la balance bénéfice-risque. Vous le dites pas comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'on comprend, surtout quand vous soulignez ce qu'avait dit Emmanuel Macron, à savoir qu'il fallait combattre le virus quoi qu'il en coûte.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est dans notre partie, effectivement, sur la conciliation entre les enjeux de protection de la vie au sens médical du terme, et puis très vite sont réapparus les enjeux liés à la vie économique et une crise économique majeure qui, du coup, peut créer d'autres gouffres et d'autres distanciations importantes. Donc, cette balance bénéfice-risque, on l'a évoquée à plusieurs reprises, notamment, et là, je peux faire le lien avec l'avis précédent, précédent sur ces signes d'Olivier Véran là du 30 mars par rapport au confinement dans les EHPAD, sur le fait de se dire, on nous avait posé la question, est-ce que finalement il faut confiner tout le monde de la même façon parce qu'il y a un risque majeur sur ces personnes vulnérables, et on avait vraiment pointé ce risque majeur d'excès en fait, d'essayer de rappeler les exigences fondamentales de ces principes éthiques fondamentaux quelles que soient les circonstances. Donc cette balance bénéfice-risque, elle traverse effectivement toutes les problématiques, et dans le cadre de ce déconfinement, quand on évoque l'économie au sens global, il faut essayer de trouver cet équilibre, et c'est là que c'est effectivement très complexe. Donc ce que l'on prône, c'est effectivement de la mesure, essayer de retrouver ce sens commun, une réflexion collective. On en appelle à une réflexion citoyenne, parce que c'est il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'effectivement depuis le début il y a eu un accompagnement et un éclairage nécessaire hein, d'ailleurs par les experts, mais qu'il est temps d'écouter la parole de la société civile.
Y compris à travers un débat. Ce que vous dites, hein, pour essayer de résumer, Karine Lefeuvre, cet avis, c'est que la priorité politique a été donnée à la protection de la vie au sens médical du terme, mais que la défense de la vie dans ses autres dimensions humaines, sociales, économiques a été un petit peu oubliée.
Bah, disons que dans un premier temps, effectivement, la priorité a été mise sur la protection des plus faibles, des plus fragiles, la protection de la vie, ce qui d'ailleurs était tout à fait compréhensible. Mais à partir du moment, parce qu'on est dans l'état d'urgence sanitaire, hein, ça porte bien son nom, à partir du moment où la crise s'installe dans le temps, et c'est exactement dans cette période de déconfinement, on est encore face à beaucoup d'incertitudes. On était au début dans une sorte de temps compressé, comme l'expression a été utilisée à plusieurs reprises, où il a fallu prendre des décisions très rapides dans l'urgence. Là, on voit bien qu'on entre dans une longue phase. On ne sait pas combien de temps elle va durer. On sait que la période de confinement a été à la fois positive dans le sens où il y a une adhésion globale de la population, et en même temps, aujourd'hui, on voit bien que ça serait extrêmement complexe, voire plus accepté par la population de repartir dans cette même dimension. Donc, on doit aujourd'hui, dans ce basculement vers l'avenir, essayer de se dire, bon, il faut retrouver un nouvel équilibre, il faut tenir compte de tous ces différents jalons, et les enjeux économiques, bien sûr, en font partie, parce que il y aurait un risque de fracture économique et sociale extrêmement profond.
Et en tout cas, ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut une réflexion globale sur notre modèle de soins en termes de santé publique. Cela dit, si je peux juste me permettre, lors du grand débat qui avait été organisé l'an dernier, cette question de la santé, elle avait été au cœur des revendications des citoyens qui avaient participé au débat.
Tout à fait, tout à fait. Et on voit bien que...
On vous a un petit peu perdu, Karine Lefeuvre, je crois. Il faudrait peut-être vous retourner votre... Oui, c'est bon.
C'est bon.
On vous entend mieux, voilà.
Voilà. Oui, évidemment, les questions et la crise à l'hôpital, vous savez bien qu'elle n'est pas nouvelle. Elle a été encore plus mise en exergue avec cette crise-là, et on voit bien, c'est notre point neuf, hein, de notre dernier point d'attention sur demain, anticiper l'éventualité d'une nouvelle vague. On voit bien qu'aujourd'hui, il est devenu encore plus urgent que par le passé de faire un état des lieux sur notre système. En comparant avec l'étranger, en essayant de prévenir l'éventualité d'une nouvelle vague, et de se dire comment éviter de se retrouver dans la même situation. Donc là, il y a un véritable enjeu d'anticipation, bien évidemment d'essayer d'éviter de se retrouver dans cette même situation de ce que certains qualifient d'impréparation, de manque de certains médicaments ou de masques, etc. Mais essayons d'être constructif et de voir comment faire les choses autrement pour la suite.
Et ce que vous dites aussi, et on en terminera de cette façon, ne pas oublier de desserrer les contraintes nées de cet épisode exceptionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui a été mis en place pour restreindre un certain nombre de libertés ne doit pas perdurer au-delà de cet épisode.
Ben, c'est à partir du moment où on est dans une exception à l'état de droit, hein. Bien sûr que toute la population a admis, a compris le fait qu'on était dans une situation extraordinaire, hein, hors du commun, mais Dès l'instant où on s'inscrit dans un temps plus long, comme on le soulignait juste avant, on voit bien qu'il faut, que ça reste vraiment du domaine absolument exceptionnel et d'essayer de trouver toutes les solutions possibles pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation. Je voudrais quand même souligner que dans cet avis qui est le quatrième hein, depuis le début de la crise, là, on n'a jamais autant travaillé, en tout cas sur un temps aussi restreint, et c'est à la hauteur de cette crise. On avait rendu un avis dès le 13 mars à la demande d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur le début du confinement, les enjeux éthiques au moment du début du confinement. Là, ce sont les enjeux éthiques lors du déconfinement. On va continuer à réfléchir parce que il y a vraiment un besoin de sens. Ça s'est retrouvé, ça a été exprimé très fortement dans les établissements hospitaliers. Alors, bien sûr, dans la population générale, mais dans les établissements hospitaliers, dans les EHPAD. Et il y a une attente extrêmement forte. Et l'éthique, c'est la question de... Voilà, c'est la science du questionnement. Voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir poser des jalons, des repères et ramener à des valeurs. Et c'est extrêmement important dans une crise comme celle-ci.
Merci beaucoup, Karine Lefeuvre, vice-présidente et présidente par intérim du Comité consultatif national d'éthique. Merci à vous.
France Inter. Le 18-20.
Avec toujours la philosophe Claire Marin qui est en ligne avec nous, et j'imagine que vous avez écouté avec attention Karine Lefeuvre. Est-ce que quelque chose a retenu particulièrement votre attention dans ce qu'elle a pu nous dire à propos de ses réflexions du comité d'éthique?
Oui, ce qui est très intéressant, ce que vous avez souligné, c'est qu'on a focalisé notre attention sur la santé d'un point de vue finalement assez biologique. En oubliant, ou peut-être parce qu'on était dans l'urgence, mais en oubliant le fait que le soin dépasse le seul critère biologique, que pour prendre soin ou soigner un patient qui est plutôt à la fin de sa vie, on sait très bien que la qualité de la relation fera partie des éléments qui lui permettront d'aller mieux psychologiquement. Et on sait quand même si le psychique n'est pas tout, on sait qu'un patient déprimé souvent est moins résistant sur le plan immunitaire. Enfin, on va pas faire un cours de philo, mais le corps ne sont pas séparés et la médecine le sait. Et certaines directives un peu radicales qui ont justement tranché dans ces liens qui sont tellement essentiels quand on n'est plus dans une perspective de guérison, mais plutôt dans une perspective d'accompagnement, par exemple de fin de vie. Trancher dans ces liens, c'était une sorte d'erreur de diagnostic sur la manière même dont on pouvait continuer à accompagner ces patients. Et comme ça a bien été rappelé dans effectivement ce rapport, la vie a une dimension humaine et sociale, et la santé elle-même passe par ces dimensions-là. Et on retrouve d'autres problématiques qui seront, je crois, à réinterroger quand les choses seront peut-être un peu plus apaisées du point de vue de l'urgence médicale. Mais comprendre comment un malade, en particulier un malade chronique par exemple, ou une personne handicapée, doit être aidée dans sa capacité à maintenir son activité professionnelle, à pouvoir toujours être insérée dans la société. Par exemple, on voit comme les familles qui ont des enfants handicapés se sont retrouvées dans des situations parfois extrêmement douloureuse, épuisante, ingérable, parce qu'il n'y avait plus tous les supports et les soins externes qui permettaient de prendre soin correctement de ses enfants, de les stimuler par la kiné, par d'autres types d'exercices qui les aident à vivre au quotidien.
Et c'est comme ça que toutes ces contraintes sociales deviennent aussi des épreuves intimes, Claire Marin. On va en parler de cette épreuve intime. Juste le temps de 3 minutes d'écouter M, Croix au printemps.
Du temps de nos confinements, j'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
M croit au printemps, choix musical de Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de la philosophe Claire Marin jusqu'à 19h, on va poursuivre notre réflexion à propos du confinement, épreuve intime, parce que pour certains, cet épisode marque une forme de rupture. Certains ont apprécié même cette vie co-confinée dans une bulle et ils comptent en tirer les leçons pour la suite. Claire Marin, je vous propose d'écouter ce reportage de Sébastien Sabiron.
Pour Jean-François, le confinement a presque été une bouée de sauvetage. Kinésithérapeute dans le Bas-Rhin, il travaillait plus de 60 heures par semaine.
J'étais physiquement, psychologiquement complètement rincé avant le confinement. Le fait d'avoir arrêté brutalement mon activité parce qu'il n'y avait pas de choix, ça m'a permis peut-être d'éviter vraiment le gros burn-out.
Et de se recentrer sur l'essentiel, son épouse, assistante hospitalière à qui il prépare de bons petits plats, et son fils de 6 ans et demi.
Là, j'ai pu passer des moments formidables pendant ce confinement. On a fait des expériences, on a fait du jeu, on a fait aussi l'école à la maison et avec son instit. J'ai vraiment redécouvert mon rôle de père.
Depuis lundi, Jean-François a retrouvé quelques patients, mais pas au même rythme qu'avant.
Je travaillerai plus le mercredi, ça c'est sûr, hein, de manière à pouvoir passer du temps en famille. Il y aura 2 jours dans la semaine où j'emmènerai mon fils à l'école. Ça m'évitera de partir à 6h du mat et à retomber dans mes travers d'avant.
Déjà nostalgique du confinement, Pierre, parisien de 22 ans, a découvert le cocooning pour la première fois de sa vie.
Je suis pas du tout casanier. Hein. D'habitude, je suis tout le temps dans les bars, dans les restaurants, à aller voir des expositions, des pièces de théâtre, des cinémas. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait du bien d'être chez soi. J'aurais jamais pensé dire ça avant, mais ça a quelque chose de sécurisant.
Au-delà du virus, c'est surtout le retour fracassant du monde d'avant qu'il redoute.
Moi, j'habite dans le centre de Paris, donc pendant toute la période de confinement, il n'y a pas eu de klaxons, il n'y a pas eu de bouchons. Et là, en fait, c'est revenu et c'est le truc, je pense, qui est le plus gênant de ce déconfinement pour l'instant, en tout cas.
Et même s'ils ont apprécié cette parenthèse confinée, Pierre, comme Jean-François, apprécient tout autant d'avoir pu revoir leurs amis.
Sébastien Sabiron, Claire Marin, on disait que le confinement avait été un révélateur des fractures de notre société. Est-ce que c'est vrai aussi pour nos relations personnelles, nos relations familiales ?
Ouais, je pense que effectivement, ça les a réinterrogés. Alors, soit de manière joyeuse, comme dans le premier témoignage où ce père qui naît. Redécouvre à temps qu'effectivement il peut partager des choses avec son enfant, soit de manière douloureuse aussi. Je crois que il y a des configurations familiales qui n'ont pas supporté le confinement et la restriction des espaces et parfois l'absence d'espace propre. C'est ça aussi qui a joué, je crois, un rôle important. C'est ce qui est dit dans le deuxième témoignage, sur le fait d'être toujours dehors. Alors là, pour des raisons festives et culturelles, mais dans d'autres cas, on vit dehors parce qu'on n'a pas assez de place chez soi. On est sur les terrains de foot, dans la maison de quartier, où on travaille au café, à la bibliothèque, etc. parce qu'on n'a pas d'espace à soi où on peut véritablement soit exercer du sport, soit travailler, etc. Donc, dans certains cas, le confinement, la restriction, l'assignation presque à résidence dans des espaces où on manquait d'intimité, de privauté, c'était particulièrement complexe et ça a sans doute aggravé les tensions, et on le sait malheureusement avec les chiffres des violences familiales qui ont explosé.
En tout cas, ça a été une épreuve intime pour les familles, les couples, les célibataires. On sait que certains en sortiront renforcés, d'autres en morceaux. Pour ceux qui seraient tentés de rompre avec leur vie d'avant, vous qui avez travaillé sur cette question de la rupture, que leur dites-vous, Claire Marin ?
Je crois qu'on a entendu effectivement beaucoup de témoignages de gens qui veulent changer radicalement de vie. Je crois qu'on avait tous besoin, dans un moment où on était assigné à un lieu, d'une représentation d'un autre lieu qui soit comme une espèce d'ouverture, d'horizon qui ne soit pas limité comme on pouvait avoir le sentiment de l'être pendant le confinement. Donc je pense que c'était quelque chose comme une espèce de béquille psychique et que beaucoup d'entre nous se sont projetés en imagination dans une autre vie, alors soit une vie ralentie, et je crois que c'était un fantasme assez communément partagé de ralentir le rythme, de prendre plus de temps. J'aimerais voir ce qu'il en sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. J'ai très peur du fait d'être rattrapé par le rythme antérieur et d'avoir beaucoup de mal à résister à ce rythme qui sera peut-être même pire encore, puisque dans certains domaines il faudra rattraper le temps perdu sur le plan économique.
Cette crise, Claire Marin, elle a changé, pardonnez-moi, notre rapport au corps, en tout cas pour le moment. On verra ce que ce sera dans plusieurs mois. Alors ça va laisser des traces, parce qu'il faut qu'on garde nos distances, il faut porter un masque. Pour ceux qui veulent retrouver par exemple l'amour à l'heure des gestes barrières, comment on fait là?
Alors, c'est vrai qu'on est très inquiet. Enfin, on entend beaucoup cette inquiétude du fait qu'on perdrait encore plus le sens du toucher, de la présence. Moi, j'ai quand même le sentiment, peut-être que c'est très personnel, qu'on a vu à quel point c'était important, cette coprésence et tout ce qui est de l'ordre du contact. Je pense que tout n'est pas mauvais dans cette distanciation physique. Je crois que il y a des domaines où certains contacts sont parfois subis avec une forme de désagrément. Je crois que les contacts un peu codifiés dans la vie professionnelle peuvent disparaître sans trop de dommages. Je pense que même certaines femmes en seront plutôt libérées. Tous les contacts ne sont pas agréables. Certains contacts sont un peu normés et contraints. Je crois que c'est pas si mal si certains disparaissent. Et qu'à l'inverse, ce qui se passe, c'est tout simplement une espèce de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce dont on ne pourra pas se priver du contact. C'est la marque de notre affection, c'est l'expression spontanée de nos émotions et de nos sentiments. Et là, je pense que ça va au-delà de l'angoisse du risque.
Claire Marin, vous êtes enseignante. Vous avez continué à faire cours, mais à distance, j'imagine ?
Oui, je fais cours à un écran noir sur lequel s'affichent les noms de mes élèves présents. Et c'est une énorme frustration. C'est un logiciel qui ne permet pas de voir les visages, sinon ça fait bugger le logiciel. Parfois, j'entends quelques voix. Sinon, j'ai beaucoup de petits messages qui arrivent sur le chat. Alors, tout n'est pas inintéressant dans cette façon de faire, mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire que quand on rentre dans une salle de cours, on sent On prend la température, on sent l'ambiance, on sent si les élèves ont été stressés par le contrôle de maths. On voit lequel est fatigué, lequel est anxieux. On voit s'ils sont plutôt bien disposés, si ça va être difficile de les faire se concentrer, etc. Tous ces éléments-là qui sont de l'ordre de l'implicite, de la coprésence et tous les éléments de langage qui passent par la corporéité, toutes les formes d'attention que traduisent ou pas une posture, un regard, tout ça, ça disparaît totalement et c'est extrêmement frustrant. Enfin, une grande partie de la relation pédagogique, c'est une relation humaine qui passe par la présence réelle et qui est complètement perdue par ce dispositif.
Et c'est d'autant plus frustrant que c'est quand même un moment béni pour enseigner la philo, normalement, hein, avec toutes les réflexions qui nous viennent en tête avec ce qui se passe actuellement, hein, Claire Marin. Et on va terminer par là.
C'est un moment de questionnement très intense, où on attend peut-être aussi beaucoup de la philosophie, mais c'est surtout, je crois, pour moi, la priorité dans le rapport pédagogique, c'était plutôt de rassurer, je crois, parce qu'il y avait quand même énormément d'angoisse, et donc de discuter, de communiquer, mais peut-être pas en allant vers des grands enjeux philosophiques, mais d'abord, voilà, comme on l'a fait en commençant dans cette émission, en se souciant de l'état des élèves, des conditions dans lesquelles ils étaient, et de leur morale.
Merci beaucoup Claire Marin, et en tout cas vous introduisez le thème de notre téléphone sonne tout à l'heure, puisqu'on va parler de ce que ça a changé dans notre rapport au numérique, cette crise. Un très grand merci Claire Marin, je rappelle en tout cas le titre de votre livre Rupture, c'est aux éditions de l'Observatoire. Un très grand merci d'avoir passé ces trois quarts d'heure en notre compagnie. On va terminer avec notre rubrique Heureux déconfiné. Avec le déconfinement, vous le savez, certaines professions ont pu reprendre le travail, c'est le cas des esthéticiennes. Les instituts de beauté, il y en a des dizaines de milliers ont rouvert pour le plus grand bonheur de leurs clientes et de leurs clients, mais avec des contraintes pas toujours évidentes. Bonsoir Antoine Lee, vous avez contacté une esthéticienne qui, outre la pince à épiler, manie également de l'autre main le spray désinfectant.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Cap sur l'agglomération grenobloise, on y retrouve Martine Berenguel. Elle gère deux instituts de beauté Mayflower. Bonjour Martine, vous êtes dans l'un de vos centres. Quel protocole avez-vous mis en place par rapport au Covid-19?
Alors, dans nos instituts de beauté, un protocole sanitaire vraiment très précis. Là, d'ailleurs, ma cliente vient de sortir de la cabine. Alors là, je suis en train de mettre du spray désinfectant virucide sur tout ce qui a touché ma cliente, hein, c'est-à-dire fauteuil où elle s'est allongée. J'ai déjà désinfecté tous mes appareils tels que pince à épiler. Et là, maintenant, je vais sortir de cette cabine et je vais laisser la cabine 15 minutes ouverte afin d'aérer.
Toutes ces mesures, ça génère un surcoût, j'imagine.
Évidemment, ça génère un surcoût important. Entre 3,50 € et 4 euros par cliente, si je compte tout ce que j'utilise en produits désinfectants, mais également le coût, l'espace-temps, si vous voulez, pendant lequel, bah, évidemment, mes salariés sont payés, mais on ne peut pas prendre de prestations. Donc, voilà, c'est vraiment très, très lourd pour nos toutes petites entreprises. Hein. Moi, je peux comprendre celles qui répercutent de quelques euros de plus. Moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas le répercuter.
Mais comment ça se passe concrètement? Par exemple, quand vous épilez les lèvres, vous êtes quand même très près de la bouche de vos clientes. Ce n'est pas dangereux?
L'épilation de la lèvre, du dessus de la lèvre, elle est autorisée. Parce que là, on va mettre une visière et on va mettre un masque, voire même des lunettes. Donc on va être hyper protégé. Parce que là, la cliente, par contre, elle sera obligée de quitter son masque. Et on aura la même procédure pour les soins visage, sachant que dans les soins visage, nous, on est derrière la cliente.
Mais est-ce qu'on n'est pas moins soucieuse de son image quand on doit toujours porter un masque? Est-ce que ça ne change pas son rapport à la beauté?
Ah ben si, forcément, il y a un impact, mais quelque part, ça ne les empêche pas de se maquiller. Le masque, franchement, au contraire, elles ont encore plus envie de prendre soin d'elles et de leur visage. Mais moi, par exemple, je me maquille quand même, j'ai quand même mon rouge à lèvres sous le masque. Parce que j'adore trop me maquiller et mes clientes qui se maquillent, elles sont dans la même optique que moi. Je viens d'installer une cliente en épilation, vous voulez lui parler?
Avec plaisir.
Allez, eh ben on va aller voir ma cliente. Alors, avant de rentrer dans ma cabine, je vais mettre mon masque. Bonjour Florence.
Bonjour Martine.
Donc je vous passe ma cliente.
Bonjour, merci de nous répondre. Vous êtes là pour quoi aujourd'hui?
Pour une épilation.
Est-ce que vous avez hésité à venir? Et est-ce que vous pensez aller moins souvent chez l'esthéticienne?
Non, pas du tout. Donc ça fait 15 ans que je viens dans cet institut-là. Et je savais aussi que Martine et son équipe avaient pris toutes les mesures pour que les rendez-vous soient tout à fait sécurisés. Je vais venir faire les mêmes soins et la même fréquence que d'habitude.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà.
Bon, bah, bonne nouvelle pour vous, Martine.
Oui. Moi, je suis optimiste. Si je dois pêcher, c'est par là que je veux pêcher, c'est par optimisme.
Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage.
Merci à vous aussi.
Et merci à Antoine Lee. Dans un instant, le journal de 19h. Ensuite, à 19h20, télétravail, cours à distance, apéro Skype, mais aussi fracture numérique. Appelez-nous pour nous dire si vous vous êtes accommodé de cette situation, si vous en avez profité, si vous en avez souffert. Le numéro, c'est le 01 45 24 7000.